Alerte-terre. Alerte météo terre.
Alerte météo terre.
Bonjour, bonjour les hirondelles.
Alerte. Alerte météo.
Alerte.
Alerte météo terre. Une émission qui se balade.
Alerte.
En mer et sur terre. Météo terre.
L'émission pour garder les pieds par terre.
Grande histoire et petite question.
Une émission en mer et sur terre.
Petite histoire et grande question.
Alerte.
Alerte, météo terre.
Pour un couteau, toi, regarde. Avec celui-là. Ça, ça a l'air d'être en bon acier, ça. C'est bon, mais en fait, le couteau, il faut les aiguiser tout le temps.
Mmh.
Une fois, si tu coupes beaucoup, deux, trois fois par jour, sinon, au moins une fois. Hop. Faut toujours avoir la pierre sous la main, quoi. Mais après, les couteaux inox, ouais.
Ça pour vider après tu voudras quoi? C'est bien non?
Pour le vider?
Ouais. Je vais pas, mais t'as ton couteau là. Hein.
Mon couteau je vais le faire. Quand il est fin. Nous quand c'est fin c'est cool. C'est de l'acier arabe quoi. Donc mauvaise acier, tu aiguises. S'il est ferme et que tu l'aiguises c'est bon. Ouais.
Et est-ce qu'on met de l'eau à bouillir aussi pour plumer ou tu préfères? On fait comment?
Eh ben, je sais pas si c'est quoi, c'est un gros coq, il est jeune, il est...
Non, il est jeune, il a moins de 7 mois.
Comme ça, on peut le plumer à froid, quoi.
Ah ouais
bon. Une paire de pinces pour arracher les ailes les plus gros, les plus durs.
Je vais voir si tu veux.
Ça se couche comme les poules.
Les poules, ouais, ça se couche comme les poules.
Bon, en fait, tu vas lire. Voir ce qui se passe là-bas quand même, mais dehors il fait froid, alors je m'habille. C'est donc le deuxième coq, on en a déjà tué un cette semaine, c'était son frangin quoi.
Je fends aussi mon bois dessus.
Tu se fends, tu se coupes et...
C'est ça.
Ah, c'est pas mal. Mais bon, fendre... En fait, on faisait des... Quand on faisait des dindes de Noël, on faisait 250 dindes, donc on tuait pendant une semaine. Là.
Ah ouais.
Et, mais par contre, on les a... Ça, on arrivait... L'entonnoir, on a découvert plus tard. On les faisait... attaché par les pattes, un fil comme ça, tu les saignais, elles se débattaient, elles foutaient du sang partout. Et celui qui saignait, toi, il était couvert de sang, quoi.
Et puis vous en faisiez 250
en une, ouais.
En une semaine.
Ouais, ça, c'est pour les dindes de Noël, quoi. On les vendait à Noël. Et,
Ah, je sais pas que vous faisiez ça.
Genre, on tuait 200, on en gardait une dizaine après Noël, là, au cas où. Soit ouais. Pour nous, soit pour d'autres personnes.
Ouais.
Et c'était la dinde de plein air, quoi, parce qu'elle courait dehors et compagnie. Et par contre, voilà, il fallait les tuer, et putain, c'était le calvaire, quoi. Tu
ah ouais.
250 dindes.
C'est énorme, hein. Vous faisiez ça toute la journée.
Ça, on en passait une cinquantaine par jour, à peu près. Ouais.
Oh là là.
Et donc, on était contents. Que ça... Mais par contre, ça faisait le pognon à Noël, quoi. Parce qu'on vendait, c'était payé cash, quoi.
Et pourquoi c'était le calvaire alors? C'était quoi le...
calvaire, bah, c'est tuer toutes les bêtes. Plumer, on avait une plumeuse. Donc on trempait dans l'eau bouillante, hop, à la plumeuse. Vider et tout ça, ça allait. Non, le plus dur, c'était les tuer. les attraper. Le matin, il fallait les attraper, les foutre dans des caisses. Après, les amener là où on tuait. Tuer, plumer, vider. Et empaqueter, prêt à servir. Hein. Parce qu'en même temps, on livrait aussi.
Ah ouais?
Parce que ça partait à Nîmes, en général, Nîmes à l'Est, quoi. Donc voilà l'histoire.
Puis vous les vendiez aussi en Cévennes, au village?
Quelques-uns comme ça.
Ou bien les gens, ils avaient leurs dindes?
Ouais, si, on en vendait quelques-unes, mais pas plus les gens du village. Et en fait, la tradition de la dinde, en plus, c'est en train de disparaître, même quand on le faisait, c'était quoi, dans les années 80, 85.
Ah ouais.
Les gens, en plus, la dinde, moi, je trouve pas ça bon. Quoi. Mm. On essayait de toutes les façons de cuire ça, et c'est un peu c'est une dinde qui est sèche, quoi. Il faut la cuire dans beaucoup de graisse. Ou alors,
Du coup, vous en mangez pas tant, vous?
Du coup, si on en mangeait un peu, parce qu'on en avait les dernières, si on restait celles qu'on avait ratées au tuage, au coupage, enfin un truc comme ça. C'était pas vendable, on les gardait pour nous. Mm-hmm. Mais bon, sans se réjouir, quoi.
Ouais.
Ça valait pas malgré de calard.
Quoi. La fameuse dinde de Noël qui est censée réjouir tout le monde.
Et c'est ça, mais bon, c'est plus un truc américain finalement.
Puis après, au hameau, là, vous faisiez quoi comme viande, vous? Vous aviez les brebis?
Ben, au début, les deux premières années en communauté, on vivait avec du riz complet, quoi.
Ah oui.
Riz complet, légumes du jardin.
Ah oui. D'ailleurs, j'ai récupéré ton manuel de cuisine naturiste.
Bon, ce cas ici, donc, ouais, 2 ans de riz complet, ouais, avec légumes du jardin. Ce qui fait qu'après, ben, la viande commençait. Là.
Elle vous manquait?
Des regards concupiscents, ouais.
Ah ouais?
Et du coup, après, on a fait des cochons.
Ah.
On a commencé à faire des cochons, des lapins, puis on... Plus les chèvres, on faisait les chèvres, donc on avait des fromages de chèvre.
Vous les mangez? Non.
Les cabris, les mangeait-on?
Non,
je crois qu'on les vendait.
Au Jura, on mange les cabris, mais... Puis du coup, vous êtes tous remis à manger de la viande?
Eh bien, enfin, moi, en tout cas, oui. Même les autres personnes mangeaient de la viande, enfin aimaient la viande. Moi, les deux ans de riz, là, ça m'a fait aimer la viande. Quoi. Mais vraiment.
Ah ouais.
Ah après, je peux la manger crue. Quoi.
Ah ouais. Ça t'a fait complètement. Mais pourquoi? Parce que vous étiez frustré, tu crois, ou?
Bah ouais, sans doute, un manque. Je sais pas.
Vous y êtes comment pour faire manger? C'était un peu un truc que vous vous étiez donné comme ligne de conduite?
Mais non, parce que c'est tout ce qu'on avait comme pognon. On n'avait pas d'argent. On descendait en Camargue, on achetait des sacs de 50 kilos de riz.
Ah, mais c'était... Ouais, c'était...
Et on faisait des grosses gamelles de riz, et puis avec les oignons, les patates, enfin tout ce qu'il y avait du jardin, quoi.
Mais vous aviez quand même décidé, non? De vous en tenir à un régime comme ça? Ou bien c'était vraiment...
Mais non, on n'avait pas les moyens d'acheter de la viande.
Ah, c'était vraiment uniquement ça?
Bah ouais, il y avait personne qui... S'il y avait enfin deux nanas qui bossaient, mais on était 8 ou 10 à nourrir.
Ouais.
Avec deux salaires. Non, c'était pas un choix, comment on n'était pas végan, rien du tout, quoi. Moi, j'aurais pu l'être parce que la viande, ça me disait rien, mais... après 2 ans de riz complet, j'étais au contraire de végan, quoi. C'est... Manger une bestiole vivante, quoi. Ouais, on élevait 2 cochons. Je te jure, ils étaient vite bouffés, quoi.
2 cochons pour... ben, c'est ce que vous faites au cochonnail, hein?
Ouais, 2 cochons pour...
8?
Pour 8 à peu près, non, là ça va être pour 6.
Bon alors, Coco? Oups. Peut-être un peu tôt, non? C'est pas nuit encore.
Il a le cœur qui bat?
Ouais.
Que pour toi. Bon, ça caille, hein?
Mais on va y aller.
On se mettra à l'abri pour plumer, là, ça. On a le froid.
Parce qu'il a... Il a la crête toute... Toute, comment on dit, solide.
Droite.
Allez.
C'est quoi, c'est un peu pervers de caresser avant de couper.
Tu crois? Non, c'est pour lui dire bon voyage, quoi, je sais pas. Ciao.
Je sais pas ce qui va se passer, mais peut-être qu'il se dit quelque chose. Là, je suis mal marié.
Tu vas faire avec Sip? Tu vas faire avec Sip ou c'est Sip qui fait?
Je vais faire quoi? Ouais, il peut voir.
Il peut pas voir.
Quand il a le cul qui se...
Putain, pourtant...
Il ne faut pas te scier, il faut couper comme tu coupes une bûche en deux, quoi. Il coupe pas tellement cet outil ou quoi? Ah, ça a l'air d'être le spasme de la femme.
Non, je sens.
Tu sens quoi?
Quand tu bouges un peu les pattes comme ça là.
Je sens des tremblements un peu.
Oh là là.
Bon, hein.
Allez, attends.
Il y a encore de la vie un peu dedans.
Tu sens encore?
Ouais.
Hop là.
Attends, on va se faire nos... notre petit...
C'est la Mirabelle qui vient de...
C'est la Mirabelle de mon frère, ouais, du Jura. Il y en a un pour toi, un pour Sip et un petit pour... voilà.
Un, puis
un petit pour le coq. Stop. Lui, je le verse juste. Et pour moi.
Il est bonne.
C'est la Mirabelle du Mirko.
Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j'ai une tête d'enterrement. Et elle a raison, je travaille au cimetière, c'est incontestable. Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table. Faut pas se laisser abattre, j'ai une faim de loup. Moi je mange comme quatre et je bois comme un trou. Puis je retourne au cimetière, travailler mon mieux. Digérer mon pot de bière et mon croque-monsieur. Pendant l'oraison du prêtre, j'ai un petit creux, moi je pense à ma côtelette, à mon pot au feu, aux premières couronnes de fleurs. J'ai déjà la dent, c'est mon estomac qui pleure à chaque enterrement. Comme un côté du cimetière est inhabité, j'ai planté des pommes de terre dans l'intimité. Et dans ma jaquette noire, rendre de service, je donne un coup d'arrosoir et je cours à l'office. Je gratte, je bine et je bêche, quelle heureuse surprise. Quand je trouve un verre pour la pêche, je range ma prise dans une boîte en fer blanc, le temps est superbe. Voilà un coin épatant pour déjeuner sur l'herbe. À présent qu'a sonné l'heure, l'heure du goupillon, je pense à mes pommes vapeur, à mon courbouillon. Et quand tombent les premières gouttes sur mon ventre de femme, c'est mon ventre qui glougloute, mon ventre qui grogne. Parfois je croque un oignon, parfois une gousse d'ail, parfois même un champignon est une victuaille. Il faut faire avec, ce n'est pas copieux, car ces oraisons du prêtre on n'en voit pas la queue. Le vent chasse les nuages, c'est providentiel, un grand disque de fromage tourne dans le ciel. La faim me monte à la tête, j'avale mon chapeau, un bouton de ma jaquette et un pauvre mulot.
suis pas dans mon assiette. Je vais rendre l'âme quand je pense à mes poupiettes. À mon croque-madame, ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux.
Mais Jean-Pierre, tu sais, c'est, ça fait quoi si le chat il mange? Il peut manger n'importe quel bout là? Ça craint pas?
Quel bout de quoi? Des plumes?
Non, pas les plumes. Le poulet quoi.
Hein? Mais pas, je sais pas, aucune idée. En général, ça ne mange pas un poulet, un chat. Ah ouais. Alors, est-ce que. Il est plus bien accroché quand même.
Là, je trouve que c'est plus pratique quand même à la.
À l'eau chaude.
À l'eau chaude, ouais.
Ouais.
Vous avez fait ça longtemps?
Je sais pas. 5 ans.
L'élevage.
Ginette disait que vous faisiez bouffer toutes vos volailles par les renards, non?
Ah ouais, mais les volailles, pas les dindes.
Les poulets.
Les poulets, canards et même les oies.
Ah ouais.
Le renard, il nous avait foutu un paquet. Quoi. Chaque année, il nous faisait une cinquantaine de bestioles. Mais on en avait un paquet.
T'en as pris une plume de queue?
Ouais.
Mais je trouve que c'est plus. Sur les poules, les fouines, elles me font plus chier que les renards. Sur les renards, t'arrives à faire des grillages, des trucs. Pour les canaliser, mais les fouines...
Grosso, ouais, selon le... La surface passe la journée. Hein, la journée, les poules, nous, elles courent dehors.
Ouais. Et c'était la journée que vous les faisiez taper par les renards?
Et c'est là, le renard, il est fait la journée, l'après-midi, là, quand le soleil tape. Tout le monde est un peu indolent. Et là, c'est là, il agit, quoi. Tout d'un coup, t'entends... Côte. Tu cours et puis il y a une poule qui est partie quoi. C'est des grosses plumes. C'est vrai qu'avec les dindes, on se faisait pas chier, on est trempé dans l'eau chaude comme ça. Et après t'avais une machine avec des caoutchoucs, des doigts en caoutchouc là.
Ah ouais?
Ça te plumait toutes les.
Vous aviez ça à l'époque?
Oui.
Vous?
Bon, à l'époque, il y avait déjà plein de trucs industriels, hein, c'était les années 80.
Bah ouais, mais du coup, vous étiez équipé alors.
Pour surtout pour le plumage. Le reste, c'était un peu artisanal. Mais plumé, parce que justement, les premières années, on a fait. Au début, on en faisait, je sais pas, 50, 100. Et plume à la main. On se disait, putain, c'est bon. Et du coup, on s'est mis à plusieurs, on a acheté une plumeuse et ça plume les... pas les canards.
Les canards, tu les as pas fait, toi?
Ben non, c'est la fouine qui les a fait.
Ben ouais, mais en fait, on les aurait peut-être pas fait. Hein.
Moi, si, c'est trop bon le canard pour ne pas en faire.
Bon, du coup, le canard, c'était un truc qui rapportait bien, faire le canard.
Vous l'avez engraissé, vous faisiez le canard gras?
Canard, non, justement, nous, on faisait pas. Après, on a Morand à Oumazel, lui, il en a fait, il s'est lancé dans le canard. Il est gavé, il faisait du foie gras et compagnie. Et putain, ça a changé la donne, ça fait de la thune. Ah, surtout dans les années 85, pas mal. Ça se vendait bien, quoi.
Le foie gras.
Ouais, le foie gras et compagnie. En plus, le sien, il faisait bon. Et toi, dans ta famille, c'était des paysans, quoi?
Ah non, pas trop. Enfin, du côté de ma mère, ils sont vétérinaires toujours. Du coup, ils sont quand même en fait dans le monde paysan parce qu'ils sont vétérinaires de campagne, donc ils se baladent pour aller s'occuper des animaux dans les fermes. Ou alors ils reçoivent à la clinique aussi. Mais eux, ils étaient plutôt avec les chevaux.
Ah d'accord, mais c'est tout à fait une autre, c'est un autre milieu, quoi.
Ouais. Mais enfin, du coup, ils sont tout le temps avec des bêtes aussi, tu vois, parce que c'est...
Ouais.
Ils faisaient les bovins, ils font toujours les chevaux, les bovins, tous les animaux de la ferme. Plutôt que les petits animaux, mais ils font ça.
Hop là.
C'est vrai qu'il est jaune, non?
C'est la graisse.
Il était comme ça, son l'autre.
Ouais, j'en avais pas mal.
Oh, je trouve blanc, moi. Blanc au blé.
Ouais.
Pas beaucoup, hein. Le blé, je leur en donne une fois de temps en temps, mais après, je les laisse se démerder, un peu de compost. Hein. De l'herbe. C'est des œufs, des jeux bien oranges.
Ah, elles sont bien tenues, là.
Ouais, c'est les plus chiantes, là.
Bah, ça, c'est zèle.
C'est ça, mais ils se rendent pas compte, les gens qui achètent des poulets.
C'est net. Mais dans les gros élevages, pour le plumage, ça passe que par la machine? Non, il y a aussi des mains, non?
Non, il n'y a plus de mains. Le tuage et tout ça et compagnie. Tu vois tout le poulet qui passe dans les... Un suspendu quelque part et qui passe, il y a des machines, clac, pof, après il n'y a plus les ailes, paf, il n'y a plus les cuisses, prof, il est vidé. C'est vraiment tout automatique, quoi.
Les humains participent juste aux machines?
Les humains, ils sont en bout de chaîne quand le poulet il arrive en morceaux, ils les mettent dans des cagettes. Ou...
Ah ouais, ils ne touchent pas du tout. Ils ne touchent pas les animaux?
Ils ne coupent pas, ils font rien, quoi. Plus,
il fait quoi juste lumière. Avec la tête?
Et le cul.
Hein?
La tête, je la donnerai au renard. Tu veux qu'on aille vider dedans?
Ouais, ou sous là, il n'y a pas une table de lumière là.
Ouais.
C'est
vraiment...
Passe-moi les crudités, je te donnerai la bouteille. Inutile de compliquer, c'est si bon de pique-niquer. Oh, que c'est bon sur l'herbe tendre, de temps en temps d'aller s'étendre, s'alimenter et se détendre. En emportant tout ce qu'il faut. Passe-moi les crustacés, je te donnerai la bouteille et la cuisse de poulet. C'est si bon de pique-niquer quand on est deux pour se comprendre et prendre le temps de s'entendre. En vérité, rien n'est plus tendre. On se regarde dans les yeux. Passe-moi le cassoulet, je te donnerai la bouteille. Le plus dur des œufs mollets, je n'en fais qu'une bouchée. Car avant nous sur cette terre, songe à tous ceux qui s'allongèrent et ne sont plus qu'ombre et poussière. Aussi crois-moi, profitons-en. Passe-moi le compotier, je te donnerai des merveilles.
c'est si bon de pique-niquer. C'est si bon de pique-niquer.
Eh ben bonjour.
Bonjour.
J'ai absolument pas préparé mon entretien avec toi. Donc du coup, ça sera un espace d'impro. D'ailleurs, tu es musicien ?
Oui.
Tu fais de l'impro ?
Oui.
Tu joues ?
Quand j'ai le temps, mais ça fait un petit moment que non.
Tu jouais quoi ? Ou tu joues quoi quand tu joues ?
Guitare, chant.
Guitare, chant. Je ne sais pas exactement si tu considères un avant ou un après par rapport à ton installation.
Agricole ?
Ouais, et aussi ton retour en Cévennes, puisque tu as grandi en Cévennes.
Ouais, ouais, si, si, oui, bien sûr, ouais. Il y a un avant et un après, ouais.
Mais est-ce que la musique a été avant et après ?
Elle a été avant, elle était pendant au début de mon installation, de mon retour en Cévennes, mais après, elle a, petit à petit, elle a dû temporairement, j'espère, céder la place à tout un tas d'autres...
Instruments ?
D'activités, ou ouais, instruments non, mais...
Instruments non, activités. Bah si, tu travailles avec plein d'instruments ?
Des instruments, ouais, mais pas des instruments de musique, mais j'ai pas beaucoup d'instruments en vrai.
De travail ?
De travail,
ouais. Ah ouais ? C'est quoi ?
Ok, ça dépend ce que tu appelles instrument. Je considère que je travaille beaucoup avec mes mains. Après, j'ai des outils. J'ai des tronçonneuses, des débroussailleuses, un petit tracteur, un 4x4. Voilà, ce genre de trucs qui sont des outils.
Et puis, la différence que tu fais entre instrument et outil ?
L'instrument, il te donne... il te permet de créer quelque chose, je dirais. L'outil, il te permet de dégager de la matière, il te permet d'agir sur ton environnement. Par exemple, une gouge à la limite de bois qui te permet de faire une sculpture, ça serait peut-être un instrument. Mais la tronçonneuse, il y en a qui font de la sculpture sur bois, la tronçonneuse. Ça peut être vu comme un instrument, mais pour moi, c'est un outil. Tu coupes un arbre, tu coupes des bouts de bois, tu coupes des poutres.
Voilà. C'est dans l'usage aussi.
C'est de l'usage, ouais, certainement.
Enfin, bon, l'intention du geste, enfin, la raison pour laquelle tu vas faire certains gestes.
C'est ce qui en ressort, c'est quoi ton résultat avec ? Ouais. Si t'as débroussaillé un hectare de châtaigneraie, pour moi, c'est pas un instrument, c'est un outil. Mais bon, voilà, c'est du détail.
Ça dépend si tu fais du land art pour...
Ah, ça dépend si tu fais du land art, voilà, ouais. De mon point de vue, non.
Ouais, ouais, c'est ça. Et puis les mains ?
Ouais, les mains.
Comment vont tes mains ?
Je m'attendais pas à cette question. Elles vont plutôt bien. Non, pas trop de blessures, pas trop de... Non, je mets des gants quand je peux.
Et c'est quoi les... Tu pourrais... C'est compliqué, tu crois, de formuler une sorte de panorama de toutes tes activités des mains, ou pas que des mains, mais agricoles, en tout cas, de ce que tu fais.
Bah, il y a l'hiver où c'est le bois, le nettoyage de la châtaigneraie. Donc moi, je fais j'ai à cœur de rénover de la châtaigneraie par la greffe et par la coupe des rejets et des arbres sauvages qui ont poussé dans les anciens vergers, donc en Cévennes, et aussi d'entretenir ces espaces avec des bêtes qui apportent de la matière organique, qui en prélèvent et qui en apportent avec la fumure de leur crotte. Voilà, de restaurer un peu des équilibres agricoles qui ont été ceux qui ont été pendant des millénaires, quoi, qui ont permis de façonner des paysages qui à la fois esthétiques et à la fois riches de biodiversité, quoi. La présence de l'homme en Cévennes, c'est ça qui permet à toute une biodiversité d'être là.
Si l'humain n'est pas là,
la vie est moins riche.
La vie est moins riche, ouais.
C'est rare. C'est rare de faire ce constat-là. Mais dans l'agriculture, et en plus dans les espaces comme les Cévennes, ça c'est vrai. Monter des murs en pierre, hein, avoir mis la terre derrière, avoir créé un sol, hein, de toutes pièces quasiment, avoir ouvert des espaces, c'est ça qui fait qu'il y a une mosaïque de milieux qui fait qu'il y a une richesse en biodiversité. Et dès que ça s'arrête, on voit ça s'appauvrit très vite.
Puis les bêtes, déjà vous avez quoi vous ?
Des chèvres et des moutons.
Ouais, combien ?
Une quarantaine de chèvres, là, une dizaine de brebis. Des chèvres laitières, donc, pour la vocation, pour faire du lait transformé. Et les brebis pour un peu de viande, bah, plutôt pour nous, et vendre quelques agneaux éventuellement, mais surtout pour l'entretien des vergers, des jeunes vergers qui sont plantés avec des arbres qui, du coup, sont très appétants pour les chèvres et qui sont difficiles à protéger parce qu'ils sont bas, parce qu'ils sont fragiles. Et donc c'est mieux de mettre des moutons là-dessus au début, on attend que les arbres grandissent, développent une écorce un peu coriace, et que ça ne devienne plus quelque chose de fragile par rapport au chèvre.
Parce que l'appétence, c'est un joli mot d'ailleurs, tu l'as déjà dit.
L'appétence, c'est quand ça génère de l'appétit chez l'animal.
Ouais, ouais. Ouais.
C'est appétant. Mm.
C'est un beau mot pour parler, je sais pas, tu vois, de manger quoi, du ouais. Plaisir aussi de manger, et puis de vers quoi on est tourné, de quoi on a envie de se nourrir en fait.
Mm. Voilà, c'est les chèvres qui ont envie de se nourrir des ouais, arbres au verger.
Tu les empêches.
Ah bah oui, je les empêche parce que les chèvres ont une grosse appétence pour tout.
Ah ouais.
Enfin, pour beaucoup de choses en tout cas, et spécialement effectivement les arbres jeunes quoi.
Donc les chèvres, si tu les laissais en libre accès, elles les détruiraient en fait.
Elles les détruiraient.
Parce que l'humain essaye de replanter
ouais, ouais.
À cet endroit-là.
Là, la chèvre, c'est un super outil, mais c'est juste qu'il faut gérer sa pression écologique.
Ouais.
Elle a une grosse pression sur le milieu, et donc il faut en être conscient et il faut du coup ajuster en fonction.
Puis les chèvres sauvages, elles font beaucoup de dégâts ou bien, je ne sais pas.
Ah ouais, ouais. Bah ouais, ouais.
Il y en a encore des chèvres sauvages.
Bah dans le Rove, là, il y avait, enfin, dans le Rove, vers Martigues, là, je sais qu'il y avait au moins 400 chèvres qui étaient. Parce que ça s'était reproduit et tout, à tout va.
Ah ouais.
Mais je crois qu'ils ont essayé de les capter parce que ça faisait trop de dégâts dans les vignes et tout. Elles passaient bouffer les bourgeons au printemps.
Je croyais dans les garrigues. Enfin,
Dans les garrigues, alors là, elles entretiennent. Enfin, elles entretiennent. Elles stabilisent le milieu à une dynamique beaucoup plus basse que ouais. Celle à laquelle il devrait être s'il atteignait son climax. Tu mets 400 chèvres, tu ne vas pas avoir d'arbustes qui vont se développer. Du coup, tu n'auras pas d'arbres. Donc, tout va rester au ras du sol. Quoi.
Plus ou moins désertique.
Voilà.
Mais ce qui empêche aussi en certains lieux les incendies, j'imagine.
Carrément. C'est l'avantage de ça. C'est effectivement aussi...
Dans ces zones-là.
Ouais, dans ces zones-là, c'est de limiter le risque incendie, carrément.
Ouais.
Mais après, c'est vrai que si elles mettent une grosse pression, carrément, après, on arrive à des milieux semi-désertiques. Là, par contre, c'est néfaste. Quoi. On n'est pas sur de la régénération, on est sur de la destruction.
Puis pour les bêtes, pour en revenir aussi sur la présence animale au sein de ton métier, quoi. Tu travailles avec quels animaux?
Des chèvres et des brebis.
Et des chiens.
Et des chiens. Et des chats. Et des rats, mais ils ne sont pas à moi. Ils s'invitent. Des moineaux. Des poules, des canards.
Et du coup, par rapport au troupeau que vous avez, donc vous faites du fromage?
Ouais, là c'est notre première saison, donc moi avant j'avais que des brebis, et là j'ai enlevé la majorité des brebis pour prendre des chèvres avec ma compagne.
Pourquoi d'ailleurs? Baisser le troupeau de brebis, ouais.
Parce que ma compagne c'était les chèvres qui lui plaisaient, et qu'objectivement pour pouvoir dégager un revenu à deux sur des terres comme on a, il faut faire créer beaucoup de valeur ajoutée. Ce qui est le cas avec le lait de chèvre transformé, ce qui n'est pas le cas avec avec la vente d'agneau, quoi.
Ah ouais? Pourtant, c'est un succès. C'est bon.
Ah oui, oui, c'est bon. Mais en fait, le coût que ça te coûte au long de l'année, la quantité de travail et le revenu qui est lié, c'est un peu misérable, quoi.
Ah ouais.
Il faudrait avoir beaucoup, beaucoup de brebis, ce qui n'est pas possible chez nous.
Et puis, c'était ce mode économique-là qui te permettait pas, ou parce que c'était trop compliqué de le faire autrement, ou t'avais pas un assez grand cheptel
Pas un assez grand cheptel, pas une assez bonne productivité sur les agneaux. C'est vrai, il y avait quand même un peu de mortalité en étant beaucoup dehors. Puis aussi l'inexpérience, quoi, au début, hein, le fait de sortir trop tôt, d'affaiblir les agneaux, de pas soigner les bonnes maladies au bon moment. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est quand même un métier. Enfin, c'est pas un métier, quoi, c'est une culture. Donc, il faut connaître énormément, énormément, énormément de choses.
Oh, qu'il est où la camp, oh, qu'il est où mon frère. charpentier, vois-moi les misères. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où mon frère. Oh, qu'il est où l'arpentier, vois-moi les misères. Détroit n'a point rien, tout immense douleur. Et parti de monde, maman, pourquoi à moi il plaît à Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où bonheur. Ma santé, si le dire ma santé, même le dire ma santé. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où mon frère. Oh, qu'il est où la cantine, vois-moi les misères. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où bonheur.
Moi, je voulais aussi t'enregistrer par rapport à cette initiative d'abattoir.
Mmh.
Donc là, c'est un groupement entre, je sais pas combien vous êtes.
Mais... une vingtaine d'éleveurs.
Mmh.
Ouais.
Où vous décidez de vous mettre ensemble parce que c'est plus simple, ça fait...
Oh, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des outils comme ça tout seul, de toute façon, voilà. Et puis parce que, oui, des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs au niveau de ce que ça devrait être l'élevage.
Mmh.
Dehors, pastoral, savoir conduire un troupeau en extensif.
C'est quoi ?
L'extensif, ça veut dire que tu vas utiliser des grandes surfaces pour nourrir ton troupeau, parce que c'est des surfaces peu productives, et tu vas avoir peu de bêtes sur de grands espaces, du coup.
Mmh.
Donc tu vas avoir une faible charge, un faible impact en tout, quoi.
Donc,
tu vas avoir une bête à l'hectare, quoi, voilà. Quand dans des élevages plus intensifs, sans parler de la ferme des villes vaches, hein, parce qu'il y a des élevages plus intensifs sur des endroits parce qu'ils sont plus productifs, où tu vas avoir 7, 8, 10 brebis à l'hectare, par exemple. Et où là, par contre, il va falloir que ça produise à fond, parce que tu as beaucoup de bêtes, pas beaucoup de surface, donc tu vas mettre des intrants, tu vas pas vouloir qu'il y ait des mauvaises herbes, entre guillemets, des plantes que tes bêtes, elles mangent pas d'habitude, parce que ça fait, tu penses que ça fait perdre en productivité, et du coup, tu vas vouloir vraiment maîtriser complètement le milieu, quoi, jusqu'à arriver à un moment où tu finis par l'appauvrir à force de mettre du glypho, de mettre du NPK, quoi, azote, potassium.
Perdre les champignons.
Ouais, tu vas perdre tous les vers de terre, tu laboures à 40, tu fais les civets, enfin...
Ouais.
Et le projet, c'est donc une remorque d'abattage mobile qu'on a déjà achetée, et qui doit faire, je sais pas, une trentaine de mètres carrés. et qui est déjà à peu près équipé pour l'abattage, qui a servi pour l'abattage rituel de l'Aïd. Donc c'était des abattoirs qui étaient ouverts temporairement avec des autorisations d'exercice temporaire. Et là, nous, on va en faire quelque chose de fixe et qui appartienne aux éleveurs et qui soit géré par les éleveurs.
Fixe.
Alors avant, il était mobile parce que c'est une remorque. Mais nous, on va a priori la laisser au même endroit. Au début, on voulait la faire bouger. Ça a l'air compliqué vis-à-vis des investissements nécessaires à avoir plusieurs lieux qui puissent accueillir la remorque, puisqu'à chaque endroit où on la bouge, il faut des infrastructures pour l'accueillir en termes d'accès à l'énergie, à l'eau, en termes de chambres froides, de bâtiments annexes pour son fonctionnement. Mmh. Donc en fait, ça représente une grosse dépense d'aménager plusieurs points d'abattage.
Mmh. Du coup, c'est comme une petite camion ?
C'est un gros camion, c'est une remorque de 17 mètres. C'est comme un gros poids lourd, quoi.
Donc il resterait fixe comme un conteneur.
Elle est posée comme un conteneur jusqu'elle est sur roue.
Ouais.
Ouais.
Donc là, vous allez construire un seul laboratoire. Enfin.
Nous, on a besoin de chambres froides autour pour pouvoir accueillir la viande quand elle sort de la chaîne. Parce qu'en fait, cette remorque, c'est juste une chaîne d'abattage. C'est-à-dire qu'on rentre les animaux vivants juste à la porte d'entrée, on les abat, on les dépèce, on les vide et donc sortent les carcasses. Au bout des 17 mètres de la remorque, par l'autre porte. Et ces carcasses-là, il faut les stocker tout de suite dans du froid, quoi. La chaîne d'abattage est elle-même équipée d'un groupe froid, donc elle est à température, on est à 5 degrés, quoi. Et après, cette viande, il faut la stocker. Et il faut aussi avoir des vestiaires pour les vêtements, il faut pouvoir accueillir un vétérinaire, normalement, t'as un bureau vétérinaire, et plus l'évacuation des eaux usées et compagnie.
Le vétérinaire, il fait quoi ?
Le vétérinaire, il vient vérifier la conformité des carcasses par rapport à des standards sanitaires, qui sont l'état du foie, des poumons, enfin l'état des viscères, grosso modo, et l'état de la viande. Qui raconte un peu si...
L'élevage de l'animal.
Alors oui, c'est vrai que ça peut raconter l'élevage de l'animal, mais c'est pas ça qui intéresse le vétérinaire, c'est savoir si elle est propre à la consommation ou pas. Est-ce qu'il y a des indices d'impropreté à la consommation parce qu'il va y avoir des abcès sur l'animal, donc il va y avoir du pu par exemple parce que le foie il est trop abîmé alors par la douve par exemple ou par d'autres choses qui suggèrent qu'il a une maladie qui rende sa viande impropre à la consommation. Enfin, il y a toute une liste de critères qui font qu'une carcasse on peut la manger ou on peut pas la manger au sens de la loi. Actuellement.
Qui sont les mêmes critères qui sont vérifiés dans les grosses usines ?
Pareil, pour tout le monde, c'est les mêmes critères.
Qui du coup font sens pour vous, en l'occurrence ?
Oui et non, nous quand il y a un bout de viande qui n'est pas bon, on l'enlève. Parce que c'est-à-dire, si c'est pour nous, si toi tu tues un animal pour toi, tu ne vas pas le jeter parce que tu vois qu'il y a un... Tu vois ?
Bah, ça dépend quoi ?
Parce que bah, ça dépend quoi, mais...
Si tu connais le...
Mais en tout cas, ce n'est pas les mêmes standards, non. Si toi tu tues une bête pour toi à la maison, t'as pas les mêmes standards que si c'est pour la consommation que tu l'envoies sur le commerce, quoi.
Ouais, ouais. Et du coup, c'est les raisons pour lesquelles vous avez décidé de faire cette formule, c'était quoi ?
C'est pour pouvoir, parce que nous, donc, on est complètement enclavé dans les Cévennes. Si on doit atteindre un abattoir, on en a pour au moins minimum 1h30 de route. Donc c'est du transport qui est fait subir aux animaux dans une remorque. Il faut amener à l'abattoir, aller-retour, on est sur du 3 heures. Ensuite, il faut aller rechercher les carcasses, donc on est sur du 6 heures. Donc on a du 6 heures de route pour un abattage. Quand tu amènes 5 agneaux, tu rajoutes ça au bilan carbone de tes 6 heures de route avec ton véhicule et ta remorque qui tire ça. Voilà, ça te plombe. Alors qu'on est dans des élevages qui sont un peu modèles au sens...
locaux.
Voilà, qui ont un faible impact, qui sont un faible impact environnemental. Et ben tout d'un coup, t'exploses ton truc parce que tu dois faire des allers-retours pas possibles à l'abattoir, aller à Pétaouchnok et cramer de l'essence pour ça.
Pourquoi tu laisses la carcasse ?
La carcasse, il faut qu'elle... tu vas la rechercher.
Qu'elle congèle ? Ou qu'elle...
Non, pas du tout, mais toi, t'amènes tes bêtes, elles sont vivantes, t'attends pas, toi, l'abattage. Parce que tu vas les poser, eux, ils te donnent un jour où les poser, et après, il faut qu'elles ressuient. Donc elles doivent rester au moins, je sais plus combien de temps c'est à l'abattoir, quoi. Tu les récupères genre 48 heures après.
Ressuient.
Ressuyer, ouais.
Ressuyer.
Ressuyer, ça veut dire que, grosso modo, la peau, la fine pellicule au-dessus de la viande, là, elle sèche. Enfin, la carcasse, voilà, elle est ressuyée, elle est restée tant de temps à l'abattoir et tu peux la sortir, toi, et après la travailler.
Ok.
Donc, une viande de meilleure qualité, moins de stress animal. Aussi, avec les cadences d'abattage qu'ils ont, on a vu toutes les vidéos de L214, là, et on voit bien que ça, ça fait péter les plombs aux humains qui sont obligés de gérer ça, quoi. C'est des camps de la mort quand même. Alors que nous, bah, c'est les éleveurs qui s'occupent de leurs bêtes, puisque nous, l'abattoir, il n'y aurait pas de salariés. Ce sont les éleveurs qui sont tâcherons, c'est-à-dire qui sont ouvriers sur la chaîne d'abattage.
Donc vous tuez vos propres bêtes.
On tue nos propres bêtes et on les transforme nous-mêmes. Voilà.
Et puis vous le faites sur vos propres troupeaux ou bien vous faites des échanges?
Sur le troupeau et sur celui des autres. Parce que pour que la chaîne tourne, il faut qu'il y ait 4 postes au moins. Et donc quelqu'un tout seul, il ne peut pas le faire.
Donc vous allez devenir aussi...
Tâcherons.
Tâcherons, tu dis. C'est le terme,
ouais.
Pour les abattoirs?
Pour cet abattoir-là. En particulier et uniquement.
Vous avez inventé un mot?
Non. Ce mot-là est utilisé pour tous les travailleurs occasionnels dans l'abattoir.
Mobile.
Voilà. Mm-hmm. Okay. Pas forcément mobile.
Non, il n'est plus mobile. Ouais. Tâcheron, d'accord.
Tâcheron.
C'est
rémunéré à la tâche. Voilà, et ton contrat, il va être de 4h, 5h, 6h. Puis d'accord. Après, plus rien.
Donc là, si tu as, en termes de, d'investissement de gestes, enfin de travail... Et je ne sais pas combien tu as amené de bêtes quand tu allais à l'abattoir dans la vallée.
Bon, moi, je n'ai jamais amené à l'abattoir. Je n'avais pas envie de payer pour aller à Péta ou Schnock. Et au final, en plus, ça coûte super cher parce que quand tu ne maîtrises pas le process, toi, tu te retrouves comme un client lambda.
Ouais.
Et en plus, un petit client parce que quand tu as des petits troupeaux, tu es mal considéré dans les abattoirs. Enfin, tu es la cinquième roue du carrosse. Quoi.
Ah ouais, donc
quand tu as des mecs qui arrivent avec 400 agneaux, quand tu arrives là avec tes 10 agneaux,
ouais.
Tu passes pour un clown. Et donc t'es pas considéré. C'est un tout qui fait que c'est un truc qui est pas attractif quoi, l'abattoir.
Et du coup pour en revenir au tâcheron, toi aussi dans ton rapport à l'animal, aux animaux que t'as, ça va bouger beaucoup tes pratiques ou est-ce que tu vas devoir tuer plus de bêtes?
Je sais pas. Je pense que j'en tuerai à hauteur de ce que j'en amène. Je me dis ça, mais on ne sait pas trop comment ça va marcher. C'est sûr qu'il y a des gens pour qui ça gêne beaucoup moins de tuer que pour d'autres.
Dans tes collègues, là?
Ouais.
C'est des choses dont vous parlez?
Non, on constate au fur et à mesure là, qu'on se fréquente, qu'il y en a pour qui le fait de tuer, c'est pas du tout un problème.
Mais vous l'avez déjà fait ensemble?
Pour qui c'est un problème. Non, là, eux, ils l'ont déjà fait. Moi, j'ai pas participé là récemment, j'avais pas le temps d'amener. Ils ont déjà fait un essai off de la remorque pour voir ce qui allait, ce qui allait pas.
Et alors, quels étaient par rapport à ce point en particulier les constats?
J'ai pas lu le compte rendu.
non, mais sur ce geste de mettre la mort, c'est à la fois un geste du quotidien, on mange de la viande, on tue les animaux, enfin on les élève, on les tue. Et puis en même temps, bah, c'est pas rien non plus, et du coup, c'était aussi pour te demander un peu comment ça existe, et puis comment ça existera, ou alors comment vous imaginez que ce sera pris en charge ensemble, tu vois.
Bah, il y a ceux qui sont capables de le faire et ceux qui sont pas capables de le faire. Ceux pour qui ils sont capables, mais ça leur coûte beaucoup, et puis ceux à qui ça leur coûte moins. Et donc, je pense que c'est ça qui définira le nombre d'heures passées à ce poste particulier, qui est celui de l'abattage, à l'entrée de la chaîne, donc de la chaîne d'abattage.
Ouais.
Voilà, il y a ce poste, celui de la mise à mort. Et donc, celui-là, il est occupé par une... Enfin, il y a tant d'heures nécessaires d'occupation du poste, et la répartition, elle se fera en fonction de ces capacités-là, quoi.
De vos
qui sont
affinités.
Variables. Voilà, des affinités avec le geste.
Et sachant aussi, peut-être, ça, je sais pas, qu'il y a différentes méthodes, enfin, je sais pas comment...
Non, alors, il y a qu'une méthode, parce que il y a une méthode homologuée.
Réglementée,
voilà. Voilà, réglementaire. En vrai, il y a plusieurs méthodes, parce que tu sais, ça peut être par le matador, donc il y a un choc mécanique... qui est une pointe qui va traverser la boîte crânienne et créer un coma, qui est donc irréversible.
Mmh.
Et il y a le choc électro-narcoleptique, je crois, qui est en grosso une décharge électrique qui fait que l'animal est inconscient. Mais celle-là, par contre, elle est réversible, parce que l'animal, il est inconscient.
Mmh.
Mais si on le laisse 5 minutes, il va retrouver ses esprits. Et, puis, et il peut repartir comme il est arrivé, ou presque.
Puis la méthode homologuée?
Les deux sont homologués.
Donc ça, c'est un choix que vous faites?
En fait, ça, c'est un choix en fonction du matos aussi. Et nous, ça va être au matador, donc le choc mécanique, parce que le choc narcoleptique aussi, il faut maîtriser. Enfin, c'est un outil en plus qui coûte cher, quoi. C'est un espèce de gros taser.
D'accord.
Qui va faire un choc électrique, qui va mettre une grosse décharge, quoi.
Et puis toi, en particulier, tu sens comment par rapport à ça?
Moi en particulier, ça dépend si j'ai faim ou pas.
Ouais, je sais pas. Ou alors,
bah ouais, ça dépend si j'ai faim ou pas.
C'est vrai, vraiment.
Ça dépend, si tu me passes un peu de temps sans manger de viande, tout d'un coup, tu te sens plus capable, beaucoup plus capable de tuer un animal que si tu sors d'un repas avec où tu as mangé une entrecôte, par exemple. Ça va être compliqué après de tuer des rats.
C'est vrai, ouais. tu le sens vraiment physiquement,
oui.
quoi.
Ah oui, physiquement. Ouais.
Enfin, c'est pas que physique, c'est...
C'est un tout.
Parce que c'est comme si t'avais déjà eu, à un moment donné, accès à quelque chose, puis que c'est pas le moment...
C'est pas le moment de chasser, quoi, sinon ça fait référence à des vieux réflexes.
Bah ouais, non.
Ouais, ça m'embranle des vieux trucs, certainement. De quand t'as eu ton apport de viande, t'as aucune raison d'aller...
D'aller continuer à faire ça.
Ouais. Mais c'est ça qui est un peu délicat. C'est que du coup, quand tu tues à la maison et pour toi,
ouais.
ça se fait à des moments où t'as bien envie que ça se fasse.
Mm-hmm.
Bon, l'abattoir, c'est un jour qui est fixé sur le calendrier. Quoi que t'aies mangé la veille, t'as bien dormi, t'as mal dormi, c'est le moment, c'est pas le moment, bah, tu t'es engagé, il faut y aller et puis il faut le faire.
À la maison,
ça, c'est plus compliqué.
Enfin, chez toi, c'est quelque chose que tu te laisses beaucoup plus librement.
Ah oui, moi là, ça fait 2 mois que je dois tuer un mouton et un mâle castré, un bouc castré là. Je trouve pas le temps. Et puis là, on a un peu d'argent pour acheter de la viande. Donc, pour les petites, elles mangent de la viande. Nous, on en mange aussi. C'est nos parents qui nous en amènent. Et donc, bon, voilà. En vrai, on n'a pas vraiment besoin de les tuer. Donc, du coup, je traîne à les tuer, tu vois.
Ouais.
Mais on n'aurait pas de viande au convélo, nos parents ne nous amèneraient pas de bout de viande. Je pense que d'ici une semaine, 10 jours...
Tu le ferais.
Ça serait fait, ouais, ouais.
Mmh.
Mais il y a une appétence, forcément, là encore je reprends le mot, forcément pour la viande, parce que dans la viande, il y a plein de choses qui sont directement disponibles, parce qu'elles ont déjà été transformées par un corps, en termes de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments...
J'ai jamais entendu ça dit comme ça.
Ah ouais ?
Ouais.
Eh ben oui, mais c'est déjà un corps animal qui a fait toute une transformation à partir d'autres éléments de la nature et qui t'apporte du... C'est du prêt-à-porter, en fait, pour l'organisme. Bah ouais. Tout ce fer assimilable directement. Tu vois, par exemple, qu'il y a dans le sang, toutes les protéines, tout un tas de vitamines et d'oligo-éléments.
Ouais. Ouais, d'accord.
Quand tu fais enseignant, en tout cas.
Comme une sorte de traduction des forces... vive de la nature.
Bah tu profites du travail d'un autre.
Bah bravo.
Tu manges. Oui, c'est de l'exploitation, encore une fois.
C'est vrai. Tu te la formules à toi-même comme ça?
Non, je me le formule pas. On pourrait le voir comme ça, mais c'est vrai pour tout, quoi. Je veux dire, un arbre que tu plantes, que tu greffes, c'est pareil, tu l'exploites. Si tu veux, t'exploites toute chose que tu fais.
Ben ouais, d'ailleurs, le fait de mettre la main dans les paysages là, dont on parlait, dans les milieux, c'est toujours aussi manipuler le monde, en fait.
Ouais.
Alors après, jusqu'où on manipule et
Quand est-ce que tu exploites, quand est-ce que tu collabores, quand est-ce que ton action elle est positive ou négative, c'est pas forcément facile à définir.
À observer, à distinguer. Et par rapport à la viande, juste pour les animaux, je vais juste te demander s'il y avait des bêtes que tu mangeais pas, enfin, ou alors si le curseur avait bougé aussi par rapport à ça.
Ah bah je me rapproche pas d'eux, c'est sûr. Il n'y a pas de lien d'affinité avec les animaux dont tu sais que tu vas les manger. Tu sais qu'ils sont destinés à être mangés, donc tu les traites bien, aussi bien que tu peux, comme les autres. Mais je vais pas faire, tu vas pas faire de, tu vas pas faire de gratouille, pas faire de caresse, tu vas pas faire copain, tu sais que au bout d'un moment tu vas, ah, j'ai pas, ouais non, moi c'est ma posture par rapport à ça, voilà, c'est ça, c'est la prise de distance par rapport aux animaux qui sont destinés à être mangés.
Ah ouais, c'était pas ça ma question, mais c'est intéressant que tu parles de ça. Non, je me demandais s'il y avait des animaux, des espèces, que tu sortirais du, qui rentrent sur votre cuisine, sur vos repas, quoi.
Ah non.
Bah, je sais pas.
À part les chats et les chiens, quoi, je veux dire, voilà. Et les rats, non plus, ils mangent pas. Je sais pas, c'est instinctivement comme ça, tu te dis, bon, c'est pas le bon choix, quoi. Non, ça donne pas envie de manger. Je pense qu'il y a une barrière dans la tête qui. Ouais, ça rentre dans les rivaux, mais pas dans les consommables.
Mais tu crois comme un truc de ce principe un peu de quoi on se nourrit ? Qu'est-ce qui nous est redonné dans les corps, quoi, ou dans les...
Il y a peut-être quelque chose de sanitaire avec, tu vois, tu chopes beaucoup plus de merde. Enfin, c'est plus sale. Tu vois, les merdes de chiens, c'est plus sale que des merdes de moutons, quoi. Parce qu'en fait, au niveau bactérien, tu vas avoir toute une faune qui va être proche de la nôtre et potentiellement plus infectieuse. Un chien, ça bouffe des charognes. Si tu veux bouffer un loup, tu vois, autant il vient de bouffer une charogne. Une merde de mouton, tu vas avoir... T'as pas de problème, tu peux les manger, les gamins, ils les mangent. Moi, petit, je mangeais des merdes de mouton.
Ah ouais.
Que je ramassais par terre, sèches, les pétoules. Tu les mets à la bouche, croc-croc.
Ça
craque, c'est un peu salé.
Ah ouais.
Bonbon. Mais tu fais ça avec une merde de chien, tu vas pas avoir les mêmes conséquences, quoi.
Ouais.
Le risque, donc il y a quelque chose d'objectif là-dedans.
Ouais,
En
ouais.
fait, c'est pas que des barrières psychiques sur le fait qu'ils mangent de la viande comme nous.
Oui, c'est intéressant le rapport là de tout ce vivant qui se dévore entre lui, qui à des moments arrive à régénérer justement, mais qui en même temps est aussi en train de se manger lui-même. Enfin, il y a tout un principe comme ça
Ouais.
de trucs qui grouillent, quoi, dont on est une petite part, mais. Et à part ça, tu connais Sélos?
Non.
Marc-André Sélos?
Non.
Parce qu'il écrit sur les bactéries beaucoup.
D'accord.
Et puis, c'est lui, en l'occurrence, j'avais bien aimé lire un truc il écrit jamais seul. Comment on est des strates de présence interpénétrées, mais en particulier autour des microbes, des bactéries et compagnie. Et puis, sur les champignons, bah, c'est lui qui racontait que sous les champs de champs traités, tous les réseaux qui participent en fait à nourrir et puis surtout à pouvoir rendre possible le fait que les sols continuent à perdurer sont anéantis par les produits qui du coup font que si tu arrêtes de mettre des produits, ben ça devient stérile, donc tu dois en remettre, puis ça
Oui,
engendre
bah
cette
c'est des sols morts
situation.
qu'on
Ouais.
appelle.
Et ben merci Julien.
Et bah avec plaisir, merci Caroline.
Ben
Tu m'as fait réfléchir
en vrai c'était
à
intéressant,
t'en
j'aurais bien
préciser.
continué, mais je pense qu'il faut qu'on aille
Ouais, faut
manger
qu'on aille
du poulet
manger.
qu'on a
Oui,
tué
qu'on aille
hier.
manger. Voilà, c'est ça.
Et ouais.
La viande sur la table, la viande par terre, la viande sur les étals, la viande sous la pluie, la viande étalée, couverte de mouches, mangée d'asticots, la viande fraîche comme une rose. La viande des hommes, des femmes, la viande des grisons, la viande malade de la mort, la viande saoule, la viande bleue, la viande rouge, s'il vous plaît. Dans les restaurants américains, allemands, français, anglais, évaporé dans les restaurants thaïlandais, grecs, égyptiens, mauritaniens, sénégalais. La viande qui pue et qui fait mal. La terre, la viande sur pâte, la viande, qu'est-ce que c'est? La pénurie de viande, la viande fleurie, la viande faisandée, épicée, raciale. La viande qui saigne et qui pleure, la viande qui rit sous les hommages des archiducs et des imams, des moines dodus, des friandes femmes du monde, des hommes des cavernes illuminées, la viande.